Alors bonjour à toutes et tous, vous écoutez Regards croisés avec Arlette Farah
et Fulgence Blas.
Alors bonjour Fulgence.
Bonjour Arlette.
En cette belle journée du mardi 20 octobre.
Tu as fait ça une belle journée toi.
Bah, à partir du moment où je suis derrière le micro, moi c'est pour moi c'est une belle journée.
Ah bon, d'accord, ok. Voilà. Là je comprends. Je te suis.
Alors,
maintenant.
Alors de quoi va-t-on parler cette première demi-heure?
De mon côté, oui, je vais parler un peu de Riopel à la rencontre des territoires nordiques et des cultures autochtones. Ensuite, d'un documentaire qui passe depuis le 18 sur CBC, Les navires de la honte, du documentariste Semcha Jacobovici. Voilà, et voilà. Puis littérature aussi, Rodney Saint-Éloi qui « Aucun peuple n'est plus petit que son poème ».
Alors, en deuxième partie d'émission, nous recevons Michael Rancourt, chanteur-imitateur, qui nous parle de son spectacle « Les années jukebox » de Piaf à Sinatra. Et on va s'amuser, on va chanter avec lui, donc ça va aussi nous faire du bien. Merci, donc on part en musique.
On part en musique tout de suite avec Barbra Streisand et Céline Dion, un duo que j'apprécie beaucoup, Telim.
We could try it both ways and see which feels better.
Okay, so where do I go first? I
yeah,
do this line?
Do your...
Hold? Okay.
I'm scared, so afraid to show up. Will he think me weak if I tremble when I speak? Ooh, what if there's another one he's thinking of? Maybe he's in love. Feel like a fool. Life can be so cruel. I don't know what to do. I've been there with my heart out in my hand. But what you must understand, you can't the chance to love him pass you by. Tell him that the sun and moon rise in his eyes. Reach out to him and whisper tender words so soft and sweet. I'll hold to feel his heartbeat. Love will be the gift you give yourself. Touch him with the gentleness you feel inside. Your love can't be denied. The truth will set you free. You'll have what's meant to be. All in time, you'll see. Ooh, love him. And show him
of that much you can be sure.
Hold him close to you.
I don't think I could. To say.
Quelle belle thérapie. Well, never let him go. Tell him. Barbara Streisand et Céline Dion. Voilà. Tout de suite, j'aborde les différents sujets dont je parlais en début d'émission. Je commence par Riopelle, hein, à la rencontre des territoires nordiques et des cultures autochtones. Voilà, Jean-Paul Riopelle, du 923 à 2002, pardon. Il est mort en 2002. Il est reconnu comme l'un des artistes canadiens les plus importants et prolifiques du XXe siècle. Publié à l'occasion de l'exposition Riopelle à la rencontre des territoires nordiques et des cultures autochtones à l'affiche du Musée des Beaux-Arts de Montréal du 21 novembre 2020 au 21 mars 2021, un nouvel ouvrage porte un regard inédit sur la démarche du peintre et sculpteur québécois en révélant l'influence prégnante de la nordicité et de l'autochtonie dans son œuvre. Fruit de recherches approfondies, cette publication scientifique lève le voile sur certaines des sources qui ont alimenté la création de Riopelle, particulièrement dans les années 50 et 70. Cette œuvre analyse les influences artistiques intellectuelles qui ont nourri son intérêt pour les communautés autochtones d'Amérique du Nord et retrace les voyages en territoire nordique qui ont marqué sa production, privilégiant une approche interdisciplinaire, croisant histoire de l'art et anthropologie. Elle permet de mieux comprendre l'imaginaire riopélien, tout en rendant hommage aux communautés autochtones et à leur culture matérielle qui l'ont inspiré. Voilà, c'est dirigé par Andréane Roy, d'ailleurs, historienne de l'art, Jacques Desrochers, conservateur de l'art québécois et canadien avant 1945, le Musée des Beaux-Arts de Montréal, et Ipsel Riopelle, auteur, éditeur, éditrice et fille aînée de l'artiste, bien sûr. Et cet ouvrage réunit une dizaine d'essais et plus de 300 illustrations, grandes photos. Il bénéficie de la contribution de nombreux spécialistes, dont certains issus des communautés autochtones. Sa conception graphique est signée Paprika, firme de design, récompensée de nouveaux prix. Le titre, c'est « À la rencontre des territoires nordiques ». Des cultures autochtones, éditeur édition scientifique du Musée des Beaux-Arts de Montréal, en collaboration avec 5 continents éditions Milan. Voilà, auteur, sous la direction d'Andréane Roy, de Jacques Desrochers, d'Yves Riopelle, avec les textes de Nathalie Bonville, Serge Bouchard, Daniel Chartier, Florence Duchemin-Pelletier. Je ne vais pas oublier, je vais tous les citer là, parce que la preuve, ils ont contribué à ce livre-là, Léna Evic, François McGagnon, Marie Klatz, Ruth Philippe, Bruce Hugh Russell, Marc Séguin, Guy Sioui Durand et Christa Oulujuk Zawaski. 288 pages, 270, plus de 270 illustrations. Voilà, date de parution, c'est déjà paru, octobre 2020.
Ah, d'accord.
On est en plein là-dedans, là. C'est offert aussi en version originale en anglais, hein. Je peux dire le prix, ça coûte 55 $. Pour ceux qui sont en Europe, c'est 45 €.
Il est à commander pour l'instant, puisqu'on ne peut pas se déplacer.
Voilà, puisqu'on peut. Il est en vente à la librairie, à la boutique librairie du Musée des Beaux-Arts de Montréal. Ouais, au prix de 54,95 $, disons 55 $. C'est ça le prix. Ouais. Ceux qui veulent mieux, vous pouvez le télécharger aussi en PDF. Vous pouvez télécharger aussi des photos haute définition. Voilà. Et c'est. On dit merci à. Remerciement, oui. Le Musée des Beaux-Arts dit merci à Hydro-Québec, grand partenaire du gouvernement du Canada aussi, qui ont permis à la réalisation de ce bouquin-là. Oui. J'ai encore du temps. Je vais parler un peu de littérature. Rodney Saint-Éloi Il est écrivain. Ouais, auteur lui-même, poète, essayiste, romancier, qui a sa propre maison d'édition, mais qui se fait éditer maintenant là aussi par une autre maison d'édition. Québec-Amérique, Rodney Saint-Éloi. Aucun peuple n'est plus petit que son poème. Voilà, ça c'est très intéressant d'ailleurs. L'écrivain d'origine haïtienne, Rodney Saint-Éloi, rend hommage à sa mère et au potentiel rédempteur de l'imaginaire. Oui. Je vous parle de. C'est un très bon article là, de Anne-Frédéric Hébert du Québec, du Devoir, pardon. Et je vous parle de Bertha. Bertha est morte. Debout près du cercueil de sa mère, Rodney Saint-Éloi se répète cette phrase pour douter de chaque mot. Car que reste-t-il de nous, de notre mémoire, lorsque la dépositaire de notre enfance rend les armes, emportant avec elle à tout jamais les non-dits, les histoires, les apprentissages. C'est à ce moment précis, recueilli sa main à la sienne, que l'écrivain a compris que toute sa relation avec Bertha, qui est sa mère bien sûr, reposait sur le silence. Un silence aimant, empreint de bonté, de dévouement, de chant et d'amour. Une montagne à laquelle s'accrocher, de laquelle tirer le récit d'une vie. Bertha et moi, nous ne nous sommes jamais vraiment parlé. C'est Rodney qui le dit.
D'accord.
Oui. J'ai eu peu de temps pour la connaître. Pendant mon enfance, je la regardais travailler de loin. Je l'admirais. Puis lorsque j'ai eu l'âge de réaliser l'importance d'une mère, elle est partie pour l'Amérique, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique. À son décès, j'ai fait ce que tout fils fait. J'ai rappelé à moi tous les mots qui nous ont manqué. L'amour nous a permis de traverser tous ces manques, toutes ces paroles non avouées. Ouais. Et pour rendre hommage à celle qui lui a donné tout donné d'ailleurs, l'auteur a cherché à atteindre ce qui existe au-delà de la parole et du geste, cet amour pour qui n'obéit à aucune forme de règle ou de contrainte. Toute mon enfance, j'ai été bercé par la voix de ma mère, une voix douce comme une rivière. Bertha est devenue pour moi comme un horizon. Je voulais à tout prix retrouver la beauté de cette voix, ne pas rater cette présence qui n'existe désormais que dans l'absence. Je voulais être à la hauteur de tout ce que cette femme m'a offert, de tout ce à quoi elle n'avait pas eu accès à elle-même, le goût du monde, un amour pétri dans la foi, de la beauté, une très rare humanité. On va en musique.
Bah, c'est brutal après ça, mais c'était très
oui.
Poétique.
Ouais.
Voilà.
C'est
on
touchant.
Part en musique
c'est touchant.
Avec,
avec oui. Big MG, number one.
Allons-y.
Cavali que na no floral aline na meno machirza mami que io no va ek fo panza kan fu que mi tuve a casa a matin tips vola linea sa covali sangu marare ante la mi jali linea sa covali mamara I'm a number one.
taco, baby. Ana taco, 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 taco.
Big MG number one. Ce jeune malagaisi, j'aime bien les appeler malagaisi plus que malgache. Ouais. Voilà, c'est la nouvelle génération malgache. Hein.
C'était entraînant et ça donne envie de danser.
Ça donne envie de danser. Ouais. Ouais. Là, je t'ai vu en train de. Ouais.
Ouais, oui, j'écoutais ça. Non pas religieusement, mais en bougeant sur ma chaise.
Oui, c'est ce que c'est. Arlette Farah. Bon, je termine rapidement avec quelques mots encore sur le livre de Rodney Saint-Éloi, « Le digne art d'être mère ». Donc, quand il fait triste, Bertha chante sa mère. Rodney Saint-Éloi module donc sa voix pour se faire l'écho de sagesse de celle à laquelle peut-on prêter oreille, faisant aussi ainsi entendre la musique et la noblesse de cette forme d'art qu'est la maternité.
Oui.
Oui. Femme mère, marginale dans un pays qui s'érige à tâtons dans la violence des coups de la dictature, de la misère et du manque, Bertha devient sous la plume poétique et émotive de son fils la mémoire d'un pays trop souvent cantonné au cliché, la lumière de l'espoir qui anime ceux qui ont connu le pire. Voilà, c'est aux éditions.
À travers elle, il raconte l'histoire. Quoi.
Oui, avec c'est aux éditions Québec-Amérique. C'est 304 pages, ça se lit facilement. Ça. C'est pas la brique de 500, oui. 600, 1000 pages. Là, voilà. Ça se lit facilement. On va passer à autre chose. Les navires de la honte. C'est le documentariste Simcha Jakubovici qui plonge littéralement dans un passé esclavagiste lourd de 400 ans. Oui. Dans la série documentaire qui a commencé d'ailleurs sur CBC le 18, c'est-à-dire avant-hier le dimanche, certains chiffres donnent le tournis et devraient soulever l'indignation. Entre le 16e et le 19e siècle, plus de 12 millions d'Africains ont été arrachés à leur pays pour servir d'esclaves aux puissances coloniales et puis à leur nouvelle colonie. De ce nombre, environ 10%, un pourcentage très approximatif, stimatif d'ailleurs, des hommes, des femmes, des enfants qui ont sillonné l'Atlantique dans des conditions inhumaines, qui n'ont jamais touché terre et reposent au fond de l'océan. Que vous n'en sachiez rien, ou si peu, ne devrait pas vous gêner. Le réalisateur et producteur Simcha Jakubovici n'en savait rien, lui non plus. Et s'en s'étonne encore, quand depuis le début de sa carrière, ce documentariste chevronné a parcouru la planète pour en révéler les splendeurs, mais aussi les misères, s'intéressant à l'intifada, Deadly Karens, oui, l'histoire d'Hollywood, Hollywood, Hollywoodisme, Jews, Movies and American Dream. Ça, c'est tout ce qu'il a fait, hein, pour ceux qui ne connaissent pas son parcours cinématographique. Il dit, je me considère comme quelqu'un d'assez instruit, mais j'ignorais tous ces faits, reconnaît avec humilité Jakubovici de sa résidence en périphérie de Tel Aviv, là où il habite avec sa famille, alors que la maison de production est située à Toronto. Faut pas oublier, c'est Montréal, il a vécu à Montréal aussi. Il est né à Tel Aviv, vécu à Montréal, reparti avec la famille là-bas maintenant à Tel Aviv. Il parcourt le monde entier. Là, j'ai une photo en face de moi, là, dans les rues de d'Addis Abeba en Éthiopie. Alors là, vraiment, c'est, il faut le voir, c'est sur CBC depuis ça parle de quoi ? Ça parle des navires, des négriers, des bateaux négriers qui transportaient les esclaves et qui sont partis dans le fond des océans.
Qui ont coulé.
Lui, c'est C'est un plongeur sous-marin. Voilà, c'est ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Hein. Alors, il s'est demandé pourquoi est-ce qu'il n'a pas de document, de monument pour ça, pour ces navires disparus. Alors, c'est la raison pour laquelle il s'est lancé dans ce documentaire.
Dans cette recherche.
Oui, oui, dans cette recherche. Ouais. C'est un amateur de plongée sous-marine. Donc, du moins, son volet archéologique, une passion partagée avec un ami assez célèbre, du nom de James Cameron. Voilà.
Voilà. Un petit peu. Juste un petit peu connu.
Juste un petit peu connu, voilà. Alors, ça passe depuis... Alors, qui fait la narration? C'est un grand monsieur qu'on connaît tous, hein, qui vient de trouver ses origines d'ailleurs au Gabon. C'est Samuel...
Jackson,
le grand Samuel.
Ah oui.
Voilà, qui a obligé, il a forcé un peu
comédien.
Le bras. Oui, il a forcé le bras du documentariste pour donner sa voix, au fait.
Ah d'accord.
Voilà, ouais, parce que lui, il ne voulait pas de tam-tam, là, il ne voulait pas de clairon, de fanfare. Il voulait faire son truc, là, tranquille. Mais il a accepté quand même de collaborer avec lui.
D'accord.
Alors, pour les amours, pour ceux qui comprennent l'anglais, allez-y à CBC, c'est depuis dimanche à 21h. Ça passe, ce documentaire-là. Oui.
Très bien.
Les navires de la honte.
Les navires de la honte,
oui.
On s'en souviendra.
On termine en cette musique. Première partie de l'émission, bien sûr en musique, avec Kolinga, une jeune originaire du Congo, si je ne me trompe pas, avec la complicité de Gaël Faye, Congo.
Jeté dans les eaux, un peu malgré moi, l'appel est si fort que je me perds un peu parfois qui on est, où l'on va. Au moins je sais qu'un bout de mon âme demeure chez toi. Congo, à l'image de ton fleuve, ton tumulte m'émeut et arrache tous mes masques, à nu je me jette à l'eau. Quel rôle m'offres-tu? Quel enfant suis-je pour toi, le sage ou le têtu? Celui qui t'aime en tout cas te l'ai, je dis le sais-tu? Congo, avec toi j'aimerais me lever. Congo, avec toi j'aimerais danser. Congo, avec toi j'aimerais avancer vers des jours plus.
Présent passé, le futur un sentier de bohémien. Bout de toi, bout de ton âme, je suis. Ta sueur et tes larmes, j'essuie. Enfant du fleuve, des forêts, des villes. Les cupides ont dévoré nos vies. J'ai lu chaque ligne de la lettre à Pauline. Du fond de l'abîme, j'ai vu l'aurore opaline. Avance, je trébuche mais j'avance. Vers des jours plus heureux, je danse des rumbas raturés aux guitares saturées. Mégaphone à toute tête pour chanter.
Avec toi, j'aimerais me lever.
Calling et Gaël Faye, Congo, j'aimerais bien me réveiller dans tes bras, Congo. Waouh, très poétique, puisqu'elle chante avec un poète.
Elle c'est une belle déclaration d'amour.
C'est ça, au fleuve Congo.
Alors, dans cette deuxième partie d'émission, bien, on va être avec Mickaël Rancourt qui a fait nombre d'imitations. De chanteurs extrêmement célèbres, aussi différents que Edith Piaf, puisqu'il a fait des voix féminines, Elvis Presley, Engelbert Humperdinck, plein d'autres choses, donc Gilbert Bécaud, Frank Sinatra, Johnny Cash, évidemment, James Brown. Donc on va parler avec lui de tout ce qu'il a fait, puis de ce qui s'arrête aussi, puisque pour le moment, il avait plein de spectacles qui étaient complets, qui affichaient complets et qui ont dû se stopper.
Pandémie oblige.
Puisque pandémie oblige. Donc, on en parle dans la prochaine demi-heure de cette émission. Restez avec nous.
Vous écoutez Regards croisés avec Fulgence Blas et Arlette Farah.
Mickaël Rancourt, les années jukebox de Piaf à Sinatra. Le spectacle à voir.
Mickaël Rancourt, bonjour.
Oui, allô.
Bonjour. Bienvenue,
Mickaël.
Monsieur Jukebox.
Merci beaucoup. Ça fait drôle d'entendre mon vidéo, mon audio de mon spectacle. Je l'ai pas fait une fois cette année, finalement.
Ben oui, parce que ben justement, avant de parler un petit peu plus de ce spectacle et puis de tout ce que vous avez fait, j'ai envie de vous dire, mais comment allez-vous? Parce que c'est pas facile quand même de voir tous ces spectacles annulés.
Ah ben oui, vous avez bien raison. Malgré tout, la santé est là. C'est quand même ce qui est le plus important. Dans tout ce qui se passe, au moins la santé est là et tout ça. Alors j'attends avec ma gang, avec mes musiciens, mes techniciens, tout ça, j'attends que tout ça reparte, mais non, ça va quand même assez bien. Les journées sont un petit peu longues parce qu'il n'y a pas rien vraiment qui repart pour nous, pour les artistes, ou moi, je m'occupe de ma promotion, je m'occupe de mon booking aussi, de trouver mes spectacles et tout ça. Et là, présentement, on ne peut pas appeler personne pour des contrats parce qu'il n'y a pas rien de certain. Alors, les gens n'osent pas dire on aurait besoin peut-être de toi l'été prochain ou au printemps ou à l'automne prochain. On ne sait pas rien. Alors, c'est vraiment tranquille de tous les côtés.
Il y a quand même un spectacle qui est fixé au mois de décembre, en espérant qu'il se fasse à Québec.
Vous avez bien raison. Vous savez pourquoi il existe encore ce show-là du 26 décembre? C'est que c'est une idée, c'est une très belle idée. C'est les gens louent une chambre d'hôtel. On parle du Plaza de Québec, les hôtels Jarreau, et les gens ils vont manger dans leur chambre. Les repas sont servis dans leur chambre avec une bonne bouteille de vin. Les gens couchent là-bas et ils ont le balcon où ils peuvent voir mon spectacle de leur balcon. Alors, toutes les
c'est génial.
les mesures sanitaires sont toutes là. Il n'y a pas personne qui est proche. Tout le monde est à chacun son balcon. Et le spectacle a lieu en bas avec mes musiciens. Et ça va être... C'est pour ça que ça existe encore. Parce que, bon, à peu près partout, les spectacles sont arrêtés. Mais vu que tout est en place pour que ça soit sécuritaire pour tout le monde, ben là, jusqu'à date, je me croise les doigts pour que ça existe encore. Mais là, jusqu'à date, à aujourd'hui, ça existe encore.
C'est encore là. Bon, écoutez, on vous le souhaite aussi. En tout cas, qui m'amuse surtout, qui me surprend beaucoup, c'est que vous puissiez passer d'un chanteur comme Johnny Cash à une voix féminine.
Ouais. Ben vous savez, ça fait 32 ans, moi, cette année, que je travaille comme imitateur partout.
Oui, c'est ce que j'ai lu.
Et pour moi, ben ça a été toujours un exercice de monter un nouveau spectacle à chaque fois. D'arriver aussi, parce que bon, là, ce show-là, c'est les années Joe Box de Pierre Fascinatra, où on a les grands succès, les grandes voix des années 50-60. Mais au préalable, j'ai fait d'autres spectacles avec d'autres imitations. Oui. Autant que j'arrivais avec des voix de femmes, ou j'arrivais avec une femme comment elle s'appelait, dont son nom échappe, mais surlutait.
Ah oui, d'accord.
Une chanteuse, je ne me souviens pas son nom, je pense que c'est Caroline. C'est ça. Et je turlutais avec cette voix-là qui était assez particulière à faire. Et après ça, j'arrivais avec une voix comme celle de Johnny Cash, qui était complètement à l'opposé, autant Edith Piaf que ou Ginette Renaud qui chante en duo avec Jean-Pierre Ferland, t'es mon amour, t'es ma maîtresse de l'époque. Et tout ça, faisait que les gens aimaient beaucoup. Ce qui m'a donné aussi l'idée à travers toutes ces années-là, où c'est une 9e tournée pour moi au Québec avec les spectacles, d'arriver avec des numéros uniques que les gens, à chaque fois qu'ils entendaient les deux voix comme une phrase avec une voix de femme, une phrase avec la voix de l'homme.
C'était une sacrée performance.
Exactement. Et ça donnait toujours une bonne impression aux gens et ça m'a attiré beaucoup. Pour pouvoir faire des choses un peu particulières, où je fais des instruments de musique aussi, le saxophone, la guitare électrique, l'harmonica, je fais le thème, il était une fois dans l'Ouest.
Oui, c'est ça, j'allais vous dire. J'ai vu la vidéo du thème, il était une fois dans l'Ouest, j'ai halluciné. Parce que moi, c'était un des films de ma jeunesse que j'ai adoré.
Mais vous savez que ce film-là, dans toutes les années que j'ai fait des spectacles, j'ai rencontré plein de gens pour qui c'était un très beau souvenir, ce film-là. Ah oui. Autant qu'un grand gaillard vient me voir un jour, mesure de 6 pieds 4, 6 pieds 5, 200-300 livres, tu sais, un bon gaillard, là, il vient me voir après le spectacle et il me dit « J'ai pleuré comme un enfant quand tu as fait ce numéro-là, parce que moi, j'étais jeune et j'étais j'écoutais ce film-là avec mon père. Mon père, c'était son film préféré. Et toi, tu viens de me ramener comme 40 ans en arrière. Et le gars, il pleurait comme un enfant, ça n'avait pas de bon. On s'aperçoit finalement, sans le savoir, qu'on ramène les gens dans des épisodes de leur vie, que ce soit heureux ou malheureux, mais on les ramène à quelque part. C'est un peu la raison des années jukebox de Piafa Sinatra, les années 50-60. C'est tellement de la bonne musique et tellement des belles voix.
Oui, moi, c'est mon adolescence et en même temps, je me revoyais aller là-bas au cinéma et puis avoir vu ce film pour la première fois, que depuis j'ai vu 25 fois de plus, évidemment, mais... c'était la première fois.
Oui,
c'est toujours bon. Alors après, autre chose là-dedans, parce que tout à l'heure, vous allez nous faire, vous allez nous chanter quelque chose?
Je vais essayer. C'est sûr qu'au téléphone, comme ça, c'est pas évident.
C'est pas évident, oui.
Mais,
si vous voulez, on passe une chanson.
Je pourrais vous faire un petit quelque chose, peut-être. Alors, j'avais pensé à, parce que dans le show, est-ce qu'on a le temps encore pour quelques secondes?
Oui, bien sûr, on a encore 2 minutes pour parler.
Oui, OK. Dans le spectacle, j'y vais dans quelques numéros dans ce spectacle-là où je fais la version française, la version anglaise.
D'accord.
Quand je fais My Way. Je fais My Way avec Frank Sinatra, bien sûr.
Ils sont mythiques.
Et je la fais aussi avec Claude François.
Oui.
Je fais un petit bout de Claude François où je commence avec Claude François et je fais ça à peu près comme ça. Je me lève et je te bouscule, tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Sur toi, je remonte les bras, qui portent que tu es froid comme d'habitude. Et là, après ça, j'enchaîne avec Frank Sinatra, normalement, dans le spectacle. Et ça fait un beau clin d'œil de le gars qui l'a composé. Finalement, c'est Claude François qui l'a composé et c'est Frank Sinatra qui a fait de l'argent avec.
Oui, le plus. Mais moi, j'ai adoré la version française, pour vous dire la vérité. J'ai adoré la version française qui était tellement plus touchante. Pour moi.
J'ai vu Clo-Clo aussi, le film, c'est quel beau film, quelle femme. Ah oui, ça vient. Et c'est le fun dans le spectacle de pouvoir faire des petits numéros comme ça où on ramène les deux versions que les gens ont connues aussi, autant une que l'autre. Là.
Alors, on va, comme vous faites aussi Johnny Cash, on va passer une chanson de lui et puis on revient tout de suite après. OK?
Parfait. Merci.
Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith.
reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith.
Voilà, c'était Personal Jesus. Alors, Michael, vous êtes toujours là avec nous?
Oui, bien sûr.
Bien sûr. Donc, il faut quand même. Donc, mon collègue Fulgence a une question pour vous, mais avant, je veux pouvoir sourire de quelque chose. J'ai vu les titres de vos premiers one-man shows, et j'avoue que avoir écrit son premier one-man show sans voix en l'air, avec écrit le chiffre 100. Voix, la voix avec laquelle on parle et en l'air.
C'était à double sens.
C'était un jeu de mots très amusant.
Oui, effectivement.
Qui m'a beaucoup fait rire.
Que je me suis envoyé en l'air à partir de ça, sur scène, vraiment,
oui.
dans le bon sens des mots. Là.
Oui, oui.
Parce que c'était vraiment très, très, très...
Du bon, bonheur.
Un premier spectacle est toujours... Le premier spectacle en tant que tel, en tournée, à travers les salles de spectacle, à travers les villes et tout ça, c'était une grosse année et demie de préparation et tout ça. Et ça a été comme... Je me suis découvert un peu aussi, en même temps que les gens m'ont découvert dans ce spectacle-là, parce qu'on a toujours le désir de faire de l'imitation quand on est capable, on a un don. Moi, je pense que c'est un don.
Oui.
Bizarrement, ma sœur m'écrivait hier sur Facebook, est-ce que ça s'apprend à faire des imitations? Non, ça s'apprend pas. Je veux dire, on l'a ou on l'a pas.
Ça vient naturellement.
On le travaille. Mais d'en faire un métier, c'est une autre chose. Alors, pour moi, je me suis découvert un peu à travers que les gens m'ont découvert sur ce premier spectacle-là qui a duré comme... On a fait 300 spectacles de 92 à 95.
Ah oui, mais vous en avez fait un nombre incalculable de spectacles et vous allez en faire encore parce que, bien sûr, on va pouvoir revenir. Donc, je laisse la parole à Fulgence. Il a une question à vous poser.
Oui. Bonjour, Michael.
Allô.
Allô. Alors, je reviens là-dessus. Vous êtes chanteur d'abord. Bon, quel a été le déclic là pour commencer à faire des imitations? Et puis, les gens que vous, les personnes que vous imitez, s'il y a certaines personnes qui vivent encore, est-ce qu'il y a des gens qui sont venus vous voir en spectacle?
Oui, mon doux, oui, ça c'est arrivé quelques fois. Première imitation, c'était vraiment... j'ai commencé à chanter, j'avais 8 ans. J'étais dans une chorale où, à un moment donné, on est arrivé dans la famille, on était plusieurs à chanter, mes frères chantaient, mes sœurs et tout ça. Et je suis arrivé dans une chorale où j'ai commencé à chanter. Quoique, faut se dire les vraies choses, au secondaire, j'imitais mes professeurs. C'était un peu le...
Donc, ça a commencé très tôt, alors.
Oui, exactement. C'était les gags en classe et tout ça. Et après ça, à l'âge de 15 ans, j'ai commencé comme musicien avec un band. On faisait des réceptions de noces, des mariages, des choses comme ça, des parties. Et j'ai commencé à faire quelques voix en chantant. Et je me suis aperçu que les gens aimaient beaucoup cette approche-là. C'était aussi un peu le conseil des gens qui me disaient, hey, quand tu chantes du Claude Dubois, ça ressemble à Claude Dubois, peut-être juste le travailler un petit peu. Finalement, c'est ce que j'ai fait. Et ça a été le déclencheur pour commencer à faire des imitations. Et partout où j'allais comme musicien, c'était toujours plein. J'étais à peu près le seul à l'époque, dans les années 80, qui était dans un bar et qui faisait de l'animation et qui faisait des imitations et qui avait beaucoup de plaisir sur le stage. Et les gens appréciaient ça. Et ce qui a fait qu'à un moment donné, en 87, j'ai décidé d'arrêter tout ça et de 88 à faire des imitations. J'en ai vu qui m'ont... Dan Bigra m'a vu. À l'époque, au début de ma carrière, il y avait Francis Martin qui chantait « Quand on se donne à une femme d'expérience », je ne sais pas si ça vous rappelle des choses. Et Francis Martin, il m'a dit « La seule chose quand tu m'imites, c'est que tu as plus de voix que moi. » Il dit « C'est un peu embêtant de t'entendre m'imiter et en plus d'avoir quelqu'un qui a plus de voix que moi. » Et Dan Bigra m'avait dit la même affaire. J'ai fait à l'époque Michel Louvain qui était encore... comme je vois encore de temps en temps, quand je me promène en Floride, et Michel est là, et lui, il sait que je l'imite, puis que je l'ai toujours imité, et je l'imite encore aujourd'hui dans le spectacle. Il y en a quand même plusieurs qui m'ont entendu les imiter, puis ça a toujours été... Je suis pas un gars méchant, moi, quand j'imite les gens. Alors, en
oui,
partant,
c'est
j'avais un bon contact avec ces gens-là, heureusement.
Mais est-ce que vous avez, justement, en parlant, parce que Charles Aznavour est venu extrêmement oui. souvent au Québec, vous l'avez
oui.
rencontré?
Oui, je l'ai rencontré parce qu'il y a plusieurs années, j'ai fait une croisière dans les Antilles et c'est un concours qui s'était passé à Montréal, je ne sais pas, avec une radio ou quoi que ce soit, et il y avait 10 couples qui allait sur la croisière de Charles Aznavour dans les Antilles.
D'accord.
Il y avait à peu près 800 Français qui étaient sur le bateau, mais 5 couples québécois. Et moi, j'étais là aussi sur le bateau. Je faisais un spectacle avant Charles Aznavour, chaque jour sur le bateau. Lui, il était
d'accord.
avec son gros Ben et tout ça. Et je l'avais rencontré sur le bateau une fois. Il savait pas qui j'étais. On s'est présenté vite. Il savait que je faisais comme un mini-spectacle avant lui, mais... Les Français ne me connaissaient pas. Moi, je suis arrivé là, tout le monde m'entendait. Bon, j'avais un petit peu changé mon répertoire pour pouvoir faire des choses qu'ils connaissaient. Je m'en étais bien tiré quand même. Mais oui, Aznavour, c'était une des seules fois que je l'ai rencontré.
Oui, parce que là, il y a tellement de... Quand je lis la liste de ce que vous avez eu comme chanson, Engelbert Humperdinck, qui a quand même une voix hyper...
Oui, bien, ça aussi, c'est demandé beaucoup. Hein. Quand j'ai commencé à monter le spectacle, les années de Joe Box de Pierre Fascinatra,
oui.
j'ai fait un petit sondage sur Facebook. Je voulais savoir qu'est-ce que les gens voulaient entendre comme voix. Et lui est revenu quand même assez souvent, surprenamment. Pas surprenamment, dans le sens qu'on le connaît et on sait qu'il a une très belle voix, mais il avait tellement de grands succès. Et pour moi, d'aller chercher des voix comme ça, le problème n'était pas nécessairement d'aller chercher la voix, mais c'est de savoir quelle chanson j'allais faire de ces grands artistes-là. Souvent, ça a été ça. Alors, ce que j'ai fait dans le spectacle, comme Aznavour, comme Engelbert, Elvis Presley, plusieurs, j'ai fait des medleys finalement. À place de prendre une chanson...
C'est une bonne idée.
Oui, ben, ça me permettait d'en faire plus qu'une. Et les gens étaient bien contents de recevoir plusieurs chansons qu'ils connaissaient. C'est difficile de prendre une chanson d'Aznavour, c'est difficile de prendre une chanson de Sinatra, c'est difficile de prendre une chanson d'Elvis. Alors, j'ai fait des medleys dans certains numéros que je fais encore aujourd'hui, mais c'est encore des medleys qui sont bien efficaces parce que c'était difficile pour moi de choisir à ce moment-là. Et tu sais, il y a des voix qui sont des incontournables, des voix que je fais. Comme Jean-Pierre Ferland, ce grand Québécois, Jean-Pierre Ferland, que je fais encore de temps en temps, parce que j'ai deux formules de spectacle. J'ai les années Joe Box de Pierre Sinatra, mais j'ai mon spectacle aussi solo, qui est sans musicien, où je fais beaucoup plus d'imitations de toutes les générations et non pas des années 50-60. Et Jean-Pierre Ferland, c'est toujours un gagnant. Si
je vous fais
un petit bout de Jean-Pierre Ferland, je vais vous faire juste pour vous.
Alors allons-y.
Je vais faire avec la voix de Jean-Pierre. Tu belle, en femme ou en enfant, les cheveux longs courts, tu belle pour longtemps, tu belle pour toujours. Il n'y a pas d'année qui touche à ta beauté, on dirait comme le vent, tellement t'es raffiné.
Alors, finalement, un repas au restaurant avec vous, on mange avec tous les artistes qu'on veut, c'est ça un peu, quelque part.
Oui, effectivement, c'est toujours agréable de faire ces chanteurs de charme.
Oui.
Jean-Pierre Merlant, qui est toujours très
efficace
à faire ces dames. Alors, c'est toujours un grand plaisir de faire Jean-Pierre. Je fais Ginette Renaud aussi, qui chante, qui fait moi la tendresse. Je fais plein d'affaires.
Écoutez,
on dirait qu'ils sont intemporels. Finalement.
Vivement que les spectacles puissent reprendre et puis que vous fassiez quelque chose aussi. Si on arrive vers la fin de cette entrevue, à laquelle je vous remercie grandement d'avoir participé, c'était un grand plaisir.
J'aurais fait une heure avec vous autres.
Ben, je m'en doute bien. Et puis nous, on vous aurait demandé. Après, on aurait pris nos tickets pour demander chaque fois. Mais là, pour vous faire un clin d'œil, on va terminer avec Frank Sinatra. Donc on partira. Merci beaucoup. À savoir, vous avez aussi des spectacles en Floride. Donc pour l'instant, là où on peut vous rencontrer, c'est au mois de décembre à l'Hôtel Plaza à Québec.
Oui. Exactement.
Mais on ne sait jamais.
Il reste quelques chambres. Ça, là, d'habitude, on dit il reste quelques billets. Mais là, pour l'instant, il reste quelques chambres.
On va le prendre comme vous nous l'avez expliqué.
C'est bien. Hey, merci beaucoup. Vous êtes gentil. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et merci, Michael.
Bonne continuation, beaucoup. En tout cas, à une prochaine fois.
Merci. Au revoir. À vous. Bye-bye.
Alors, après avoir entendu Michael et tout ce qu'il peut faire en imitation, on va partir en musique avec le vrai Frank Sinatra qui va nous interpréter la chanson New York, New York. Alors on l'écoute.
Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. In a city that doesn't sleep, and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. New York, New York. In a city that never sleeps, and find I'm a number one, top of the list, king of the hill, a number one. These little town blues. It's up to you, New York, New York, New York.
Eh bien voilà, nous sommes à la fin de cette émission, à la fin de cette journée de mardi.
Vous voyez, on a toutes belles choses à une fin.
On a fini en chanson, c'était agréable, ça donnait envie de danser, envie de sourire. C'était bienvenu au milieu de tout ce qui se passe.
Est-ce que je me trompe? On a toujours fini cette émission en chanson, non? Oui, on dirait. Plus ou moins.
Non, mais on a fini, je veux dire, dans la demi-heure qui nous était impartie avec notre invité Michael Rancourt, à parler chanson, à jouer sur des artistes et tout, qui donnait le sourire, s'il faut une explication à tout ça.
On dit merci.
Merci beaucoup. Merci à Michael
Maurice,
d'avoir été avec nous.
Merci, Michael.
Michael Rancourt, que vous pourrez certainement entendre très prochainement. En tout cas, peut-être à l'Hôtel Plaza à Québec au mois de décembre.
On espère.
merci beaucoup. Merci à nos auditeurs. Maurice.
Merci Maurice.
Merci tout le monde, à demain.
Oui, à demain. Allez, prenez soin de vos minutes.